pour ta grâce, Seigneur, qui est là, qui est présente, qu'on peut saisir à chaque instant. Merci parce que tu es en nous et ton Saint-Esprit est en nous et est avec nous. Merci pour tout ce privilège. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
Voilà, merci Franck, merci à vous toutes et à vous tous pour l'accueil tellement chaleureux. Vous me voyez là devant et vous vous dites, j'ai déjà vu ce visage quelque part. Ce n'est pas une erreur. On s'était vu par visioconférence, je crois, il y a l'année dernière, pendant le temps de confinement. Et j'avais déjà eu le privilège de pouvoir enseigner le samedi toute la journée et puis le dimanche matin. Et puis, et John et Franck m'ont invité à revenir pour reprendre le tout et l'étaler sur un peu plus longtemps que sur 2 jours. Et c'est pour ça que donc je reviendrai chaque mois et puis on va continuer à revisiter tout cela et puis à le creuser dans les profondeurs pour saisir la sagesse de Dieu dans sa parole. Et c'est vrai qu'hier, on a commencé par le début, à savoir l'écriture, la parole de Dieu comme autorité fonctionnelle dans l'Église. Pourquoi ce mot fonctionnel ? Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on ne fait pas. C'est le grand mystère de la foi chrétienne. Je crois que la parole de Dieu nous invite à être sages. C'est quoi la sagesse ? C'est déjà mettre en pratique le peu qu'on sait. Et je pense que dans nos églises évangéliques, on a été le produit d'un mouvement de réveil au sein de la Réformation, mais je crois qu'on a été encore plus impacté par le mouvement des Lumières. On aime la parole de Dieu dans ce qu'elle peut nous enseigner. Est-ce que nous l'aimons dans ce qu'elle peut nous interpeller ? Sommes-nous promptes à nous confesser lorsque nous ne fonctionnons pas tel que la parole de Dieu nous l'enseigne ? Un collègue appelait cela le cancer des églises évangéliques du XXIe siècle, l'athéisme fonctionnel. Déclarer les grandeurs de Dieu avec 5 chants d'affilée un dimanche matin et lundi, vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas. Fonctionner finalement comme des athées, alors que nous sommes convaincus que nous croyons. C'est un grand paradoxe. C'est un grand paradoxe. Je pense que l'une des difficultés aujourd'hui dans l'apologétique, c'est mon ministère avec Imago Dei. Ce n'est pas tant de répondre à ces questions sempiternelles, si Dieu existe, pourquoi la souffrance, ou pourquoi la science a-t-elle disprouvé l'existence de Dieu. Je crois que c'est plutôt une question qui revient finalement sans cesse devant nous en tant qu'Église, et de dire comment peut-on proclamer un évangile dans une Église qui est souvent si dysfonctionnelle. Ça m'habite, cette question, et ça me réveille la nuit. La semaine dernière, j'ai enterré ma maman. Pendant 20 ans, elle a travaillé dans un ministère de relations d'aide. C'est étonnant qu'on doit pouvoir des fois se dire que dans l'Église, où finalement nous devrions être connus pour l'amour que nous avons les uns pour les autres, on est obligé de créer des ministères de relations d'aide pour apprendre à s'aimer les uns les autres. Comme quoi, ce n'est pas si facile que ça. Et combien de temps nous avons passé ensemble à pleurer sur des fois la condition de l'Église, en se disant, mais si seulement on commençait juste à mettre en pratique le peu qu'on sait, est-ce qu'on ne gagnerait pas un petit peu de temps ? Et cette disjonction entre ce que l'on sait et ce que l'on fait, ce n'est pas un problème qui est juste propre à l'Église d'aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui remonte dans la nuit des temps, où on questionne finalement la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on juge. Je crois qu'un des grands paradoxes de notre anthropologie en tant que chrétien, c'est que finalement on pense qu'on sait. Parce que nous avons goûté de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et nous sommes persuadés qu'en fait, nous savons, au fond de nous. C'est peut-être ce qui explique pourquoi les pharisiens étaient si prompts à juger Jésus. Parce qu'eux savaient le bien et le mal. Le problème de Jésus, c'est qu'il n'était pas assez Dieu pour eux. Et donc le texte d'aujourd'hui va nous replonger dans cette fracture entre l'orthodoxie, ce que l'on sait être juste, et l'orthopraxie, ce que l'on sait que nous devrions être et faire. Rechercher ces soubassements, peut-être reprendre les travaux là où on devrait les reprendre, et se laisser interpeller, laisser la parole nous visiter et nous mettre à nouveau en chemin. Et je vous invite à prendre avec moi l'Épître aux Hébreux au chapitre 5. Le verset 11 jusqu'au chapitre 6, le verset 3. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, le verset 11 jusqu'au chapitre 6, le verset 3. L'Épître aux Hébreux. On ne connaît pas grand-chose de l'auteur, mais une chose que l'on sait, c'est que c'est un pasteur, c'est un implanteur d'église, c'est quelqu'un qui a démarré une communauté à un moment donné et qui écrit à nouveau à cette communauté, les commentateurs pensent après entre 3 et 5 ans d'avoir fondé cette communauté, et il y apporte des correctifs. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Et cela, quelque part, en tant qu'implanteur et pasteur, ça nous rassure. Hébreux chapitre 5, les versets 11. Jusque chapitre 6, les versets 3. Vous avez tous votre copie de l'Écriture avec vous. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ceci est la parole du Seigneur. Ça commence par une frustration. Vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a tellement de choses, des choses difficiles que je voudrais vous expliquer et je ne peux pas. Je ne peux pas parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous devriez être des maîtres depuis longtemps. Cette frustration qui habite ce pasteur implanteur, c'est une frustration qui habite aussi le cœur des parents. Lorsque votre adolescent, après une injonction assez claire, qui est la suivante, deux points, ouvrez les guillemets, « Peux-tu mettre la table pour qu'on mange ce soir ?» se réveille le lendemain matin en disant « Il y a quelque chose que je devais faire, j'ai oublié. » C'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il n'écoute pas. Vous voyez la différence entre les deux? Il comprend l'injonction. Mais il est lent à la mettre en pratique. C'est un peu le sens, là, du texte. Cette frustration qui habite ce pasteur implanteur, c'est qu'il y a des choses qui sont simples et qui devraient être depuis longtemps mises en œuvre. Et tout d'un coup apparaît en fait une forme de contre-discipline spirituelle qui est une lenteur à pouvoir écouter et à mettre en pratique. C'est la même lenteur qui irrite les parents lorsque les enfants ont très bien entendu ce que vous dites, mais qui ne le mettent pas en pratique. Ce qui est intéressant, c'est que cette lenteur à écouter, à mettre en pratique, aura tout de suite deux conséquences. Je l'ai mis dans le texte. Lent à comprendre veut dire qu'à ce moment-là, nous ne ferons pas l'expérience de la parole de justice. Vous voyez le lien entre les deux ? Vous êtes devenu lent à comprendre, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Vous voyez cela ? C'est-à-dire que quand on commence dans la foi, lorsqu'on est tout nouveau converti, il y a des choses qu'on fait qui sont encore issues de notre ancienne façon de vivre. Est-ce qu'on va passer à un jugement sévère ? Non, on comprend qu'il faut qu'il étudie, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il se mette en route, il faut qu'il fasse l'expérience de la parole de Dieu, qui est justice dans le sens qu'elle nous justifie, mais elle aussi justice dans le sens qu'elle nous invite à rentrer dans ce chemin de justice. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, si nous avons connu le Seigneur et nous avons vécu la puissance de la parole de Dieu en ce qu'elle nous emmène sur ce chemin de justice, rien ne garantit qu'on y reste. À partir du moment, en fait, où je deviens lent à me laisser interpeller par cette parole qui vient toujours me confronter par rapport à mon ancienne vie, je risque de faire marche arrière. Ce qui nous surprend des fois dans notre assemblée, on pose la question, mais qu'est-il devenu de ce frère ou de cette sœur tellement animé, tellement zélé ? Elle dit, aujourd'hui, ils sont en panne. Et bien souvent, ce chemin de régression commence par ce déficit d'acuité spirituelle. Je ne sais pas si c'était déjà votre expérience, mais il y a un moment donné où on sent et on sait que l'Esprit Saint, par sa parole de Dieu, nous interpelle, toque à la porte de notre cœur et de notre intelligence, et dit « Sois renouvelé, ça tu ne peux plus faire. » Et à ce moment-là, on a un choix. J'entends. J'entends, mais j'ai le temps. Et à ce moment-là, on ne dit pas qu'on est sourd. On choisit juste d'être lent à écouter. C'est la définition de l'adolescence. Et parce qu'on n'en fait plus à ce moment-là une priorité, on ne répond plus de manière prompte en disant « Mais Seigneur, oui, mais bien sûr, mais pardon, mais tout à fait !» Et qu'on choisit de le mettre de côté et qu'on cultive cette lenteur, cette apathie, ce déficit d'acuité spirituelle nous amène à ne plus faire l'expérience de la parole de justice. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne fait plus l'expérience de la parole de justice ? C'est dans le texte. Il suffit de regarder. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Autrement dit, un déficit d'acuité spirituelle nous amène à ne plus faire l'usage de la parole de justice, et du coup, notre discernement moral n'est plus, voire même devient corrompu. Et ce qui est mal devient bien, et ce qui est bien devient mal. Vous voyez la chose ? Ou pour le dire autrement, plus je suis attentif à ce que l'Esprit de Dieu me dit au travers de sa parole, plus je suis prompte à y obéir, plus j'en fais l'expérience de justice, et plus je sais discerner le bien et du mal. Plus je suis lent à me laisser interpeller par cette même parole, moins j'en fais l'usage, plus mon discernement moral en est corrompu. Vous voyez ça dans le texte ? Vous voyez comment le lien se fait de manière très naturelle entre discipline spirituelle et discernement moral ? C'est évident. C'est évident. Et donc, il y a une certaine frustration qui habite ce pasteur implanteur. Parce que, au point où ils en sont rendus, ils devraient être des maîtres. C'est très intéressant ce mot dans le grec, maître. Dans le grec, c'est maître, c'est le même mot. C'est embêtant pour certains commentateurs bibliques. Parce que didaskos, quelque part, c'est maître docteur, c'est celui qui maîtrise. Et certains auront même un choix exégétique assez farfelu, en disant, mais finalement, quelque part, là, il doit s'adresser au pasteur berger de cette assemblée. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font le saut herméneutique, ça m'a toujours très interrogé. Non, je crois qu'il y avait une réelle attente de ce pasteur que ces paroissiens, que les membres de l'Église deviennent maîtres. Maîtres. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent cette discipline spirituelle, de l'acuité spirituelle, de l'exercice de la parole et du jugement moral. Or, ils constatent qu'après une certaine durée, entre 3 et 5 ans, il y a un chemin de régression. Ils ont commencé comme enfants spirituels, ils s'attendent à ce qu'ils soient des hommes matures, et en fait, c'est bien l'inverse qui se produit. Ils restent enfants spirituels. Ils ont besoin de lait, ils sont lents à comprendre, ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice, et donc ils doivent recevoir à nouveau les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est une frustration. C'est une frustration. Mais tout commence par cette décision, finalement, personnelle, de remettre à demain ce que nous savons doit être accompli aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Ce n'est pas que nous le refusons, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que nous le remettons à demain. Et c'est là que nous devenons lents à écouter. Et reprenons le chemin de la régression et ne pas de la progression. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu vous dit en ce moment et vous luttez avec ça? Vous entendez l'injonction de l'Esprit par la parole. Et en votre cœur, vous dites, je vais réfléchir. Il me faut du discernement, je ne sais pas. Demain. Peut-être ce matin, c'est l'occasion de poser aussi peut-être un acte de foi. De dire, je refuse à être lent à comprendre. Je l'ai bien écouté. Je veux mettre la table. Parce que c'est maintenant, pas demain matin. Peut-être que je nous invite juste à prendre un temps de silence dans nos cœurs. Et si ce matin, vous avez l'occasion de pouvoir vous repentir, d'être lent à écouter, peut-être c'est l'occasion de le dire. Comme tu l'as rappelé, ce n'est pas Jésus qui nous quitte, c'est nous qui le quittons. Oh, notre propension, la propension de l'âme à quitter la joie du Maître, c'est paradoxal. Et pourtant, on le fait chaque jour. Je vous invite juste à un temps de réflexion et un temps de silence. Louons le Seigneur en mettant en pratique sa parole. Merci Père, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que l'Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Que l'Esprit nous convainc de lenteur. Quand notre âme et conscience, nous puissions répondre ce matin. Oui, l'Église entend ce que l'Esprit dit. Seigneur, moins de lenteur, plus de rapidité à écouter et à me mettre en marche, afin que je puisse faire l'expérience de cette parole de justice et que mon jugement moral en soit qu'informé. Merci parce que tes grâces se renouvellent chaque matin et ce matin nous te demandons de venir renouveler cette grâce particulière en nous. Amen. Amen. Après la frustration, une exhortation. C'est important de ne pas rester dans la frustration. En particulier lorsqu'on est responsable d'église, pasteur, enseignant, diacre, ancien. De quoi vous parlez dimanche à midi autour de la table ? À un moment donné, il faut débarrasser le couvert de la frustration et il faut commencer à poser le couvert de l'exhortation. En disant, on voit, on comprend, on avance. On avance. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. On va creuser un petit peu ce passage-là, parce que une lecture un peu rapide va nous procurer des hauts de le cœur. Comment est-ce qu'on pourrait laisser des éléments de la parole de Christ ? C'est paradoxal, on vient de se dire qu'il ne fallait pas les laisser. Alors. Et en même temps, on parle d'un fondement, et on nous dit qu'il ne faut pas le reposer. Donc. Et puis c'est quoi cette histoire de tendre à ce qui est parfait ? Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? D'exiger des enfants de Dieu qui tendent à la perfection. On sait que la perfection, elle n'est pas au masculin, ça on le sait déjà. Alors certains pourront dire, peut-être que c'est une perfection qui n'est pas en acte, mais qui est en puissance. Jésus, lui, est parfait et parce qu'il est mort pour nous, propitiation, il nous couvre de sa perfection et donc nous sommes parfait en lui. Non, n'allez pas chercher aussi loin, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. En fait, un mot un peu plus contemporain, ce serait « tendons à ce qui est mature ». C'est quand même mieux, la maturité. J'ai 4 enfants, je n'attends pas d'eux la perfection, j'attends d'eux la maturité, c'est différent. La perfection, c'est un horizon, d'ailleurs qui s'échappe au fur et à mesure que vous y approchez, n'est-ce pas ? C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé son ministère, peut-être qu'il se plaignit d'être le plus petit des apôtres. Et puis après avoir marché quelques années, arrive à la fin de sa vie et dit « Je suis le plus grand des pécheurs ». C'est un horizon qui nous échappe, la perfection. Et plus on marche, plus on se rend compte de notre dépravité. Plus on se détourne finalement du regard des autres, et ce qui nous importe, c'est le regard de Christ. Comme disait Jason McKnight, notre formation spirituelle commence le jour où ce que Dieu pense de nous est plus important que ce que les autres pensent de nous. Qu'importe si je suis le plus petit des apôtres. Ce qui m'embête, c'est que je suis le plus grand des pécheurs. Tendons à la maturité. La maturité, ce n'est pas un horizon qui nous échappe. C'est atteignable, la maturité. Oui. Quand vous êtes parents et quand vous éduquez les enfants, vous les éduquez à la maturité. La maturité, c'est quoi? Ben, c'est quand ils sont invités par leurs amis et qu'ils reviennent à la maison, on espère qu'ils seront réinvités. Ça, c'est la maturité. Ça s'est passé comment? Très bien. J'ai même mis la table. La table du petit déjeuner? Non, la table du dîner. Alors, ça, c'est de la maturité. Puis on a envie de rajouter, mais non, on n'est pas dans la frustration, on est dans l'exhortation. C'est bien, mon fils. Continue. La maturité. Tendons vers la maturité. Sans poser de nouveau le fondement. Donc il faut recommencer quelque part, mais pas depuis tout le début. Les fondements ont été posés. La chape a été coulée. Il faut reprendre, mais pas depuis tout le début. Il ne dit pas qu'il faut reposer le fondement. Il dit le fondement a été posé. Alors vous vous dites, mais c'est quoi le fondement? Merci d'avoir posé la question. C'est le point qui vient là. Ben, le fondement, c'est ce qui vient, c'est la condition nécessaire de la maturité. Jusque-là, c'est bon. S'il n'y a pas de fondement, vous ne pouvez pas tendre vers la maturité. Ça va? Bon. Le fondement, c'est quoi? Ben, c'est trois paires de deux dans le texte. Trois paires de deux. Ça va? La première paire, c'est le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu. Première paire. Deuxième paire de deux, la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains. Troisième paire de deux, la résurrection des morts et le jugement éternel. Vous voyez ça? C'est bon? Alors, je vous le mets en diapo. Le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu, c'est quoi ça? C'est la conversion. La conversion, c'est bien ce double mouvement. Je me tourne vers et je me détourne d'eux. Ou je me détourne d'eux pour me tourner vers. Ça va? Non, mais je dis ça parce que on ne peut pas à la fois avoir la foi en Dieu et continuer à vivre les œuvres mortes. Il n'y a pas assez le temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée. On ne peut pas faire les deux. Donc à un moment donné, il faudra arrêter de faire cela pour commencer à faire autre chose. C'est là que la pratique de la parole de justice entre en œuvre. Dans le chemin de catéchèse de l'Église primitive, au moins jusque 350. Il fallait apprendre par cœur le sermon sur la montagne, et pouvoir le mettre en application dans sa vie avant de prétendre au baptême. Et c'était un chemin de 2 ans. Alors, quand vous lisez les commentateurs bibliques qui déjà ne sont pas d'accord sur la nature du sermon sur la montagne, certains, d'ailleurs la plupart, disant que c'est quelque chose qui est souhaitable mais pas réalisable, c'est un horizon qui s'échappe, et d'autres qui disent, mais non, c'est en lisant l'épître de Jacques, en lisant l'épître de Jude, c'est normatif. Et c'est seulement après avoir été profondément examiné à la fin de ce parcours de 2 ans, c'est-à-dire qu'on interrogeait l'employeur, on interrogeait les amis, on interrogeait la famille, pour voir si effectivement il y avait eu un renoncement aux œuvres mortes et une foi en Dieu. C'est seulement après avoir accompli tout cela, plus encore après avoir vécu un temps de délivrance, que le candidat au baptême pouvait à ce moment-là rentrer dans la communauté des croyants. 2 années. J'ai implanté des églises. Des fois, je me demande si je n'ai pas baptisé trop rapidement. Ça prend du temps. Cette histoire-là, de renoncer aux œuvres mortes et de comprendre toute la dimension de ce que c'est être en Dieu, avoir la foi en Dieu. Parce que cet objectif-là, c'est le soubassement de ce qui vient tout de suite après. C'est parce que je sais d'où je viens que je sais qui je suis. Et ce qui est intéressant dans la démarche de l'Église primitive, et pour nous c'est tout à fait étrange au XXIe siècle, c'est que cette affirmation de l'identité passe par la communauté. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais quand vous lisez en fait le prologue de l'Évangile de Jean, on y lit que Jésus était avec Dieu, il était Dieu. Dans cet ordre-là. Autrement dit, les relations avec qui tu es déterminent qui tu es. C'est fort. C'est parce qu'il était avec Dieu qu'il est Dieu. Alors pour les anciens parmi nous, c'est vrai qu'on ne comprend plus les faire-part de mariage modernes où on dit « Corinne et François vous invitent à leur mariage ». Alors qu'avant c'était « Monsieur et Madame » et « Monsieur et Madame vous invitent au mariage de leurs enfants ». C'est vrai qu'aujourd'hui l'identité elle s'affirme par l'action, par mes choix. Je décide de me marier à Françoise et c'est qui je suis. Et on oublie finalement que nous sommes aussi le fruit d'une identité communautaire. Et c'est un drame. C'est un drame. Est-ce que l'on peut recouvrer quelque part cette réalité de l'affirmation communautaire de notre identité personnelle ? Et demander à la communauté, dis-moi qui je suis. Tu es bien-aimé. Tu es fils, tu es fille, tu es frère, tu es sœur. Tous les pictogrammes que tu nous as montrés sont des réalités communautaires. 90% des commandements, des exhortations que vous lisez dans le Nouveau Testament sont communautaires. Et combien de fois nous le lisons de manière individualiste ? Est-ce que nous savons même dans notre inconscient, que nous avons besoin de l'Église pour notre croissance spirituelle. Qu'il ne suffit pas que l'on vienne avec notre Bible et notre Saint-Esprit le dimanche matin, mais que nous avons besoin de la communauté, nous avons besoin de nous frotter les uns et les autres, les uns avec les autres. On a besoin de se reprendre, de s'aimer, de se pardonner, de ne pas juger, de ne pas nous dévorer. Paul était très réaliste sur notre anthropologie, même de racheter. Et que finalement, l'Église, la communauté, c'est un des vecteurs de la grâce pour ma propre sanctification. Et de choisir finalement de ne pas vivre cette réalité communautaire, c'est aussi choisir le chemin de la décroissance spirituelle et risquer l'apathie. Le baptême, cette reconnaissance de la communauté que nous sommes, que vous êtes maintenant membres d'eux, que vous avez trouvé votre place au sein d'un peuple et que Dieu vous appelle à accomplir au sein de ce peuple votre appel, votre appel. Et l'imposition des mains, une pratique qui était courante dans l'Église primitive, on se souvient de l'injonction de Paul, n'oublie pas les charismes qui t'ont été imposés au travers de l'imposition des mains que tu as reçues, cette reconnaissance que vous êtes non seulement enfant de Dieu, mais que vous êtes aussi co-ouvrier, c'est une des images, que vous êtes acteur, que vous êtes serviteur au sein même de ce peuple de Dieu, que vous devez rentrer pleinement dans cette prêtrise à laquelle il vous appelle. Et que pour cela, il vous donne aussi les charismatas, les dons spirituels, qui ne sont pas juste réservés aux églises de Pentecôte, mais qui sont réservés à toutes les églises, les charismatas, les charismes de l'Esprit-Saint, qui nous permettent de pouvoir rentrer pleinement dans un ministère qui n'est pas un ministère opéré par la chair, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et cela prend du temps. C'est un discernement collectif. Mais c'est un discernement qui est joyeux, dans le sens que le Seigneur nous donne un enfant, son enfant, nous sommes tous du même Père, et en même temps, au travers du baptême, il s'identifie aussi à la vie du Fils, Et il veut marcher par l'Esprit en communauté. Et sa vie, nous la reconnaissons en tant que telle, comme un membre d'eux, mais aussi comme un contributeur à cette œuvre au sein de notre Église. Je sais qui je suis, parce que je sais avec qui je suis. Et parce que je sais d'où je viens, parce que je sais qui je suis, je comprends aussi où je vais. La résurrection des morts et le jugement éternel. L'eschatologie comme fondement. Pourquoi est-ce important que les chrétiens comprennent lorsqu'ils viennent à Christ où ils vont? Aujourd'hui, on va vous dire, ben nous on sait où on va dans le mur. Vous n'avez qu'à lire mon profil Facebook. L'horizon était différent à l'époque. Et pourtant, c'était une église qui était persécutée. J'ai le privilège depuis maintenant 10 ans de travailler avec l'église au Moyen-Orient, après la révolution de printemps. Et je comprends et je saisis en fait pourquoi c'est important pour un chrétien qui vient de trouver sa place dans le peuple de Dieu, de se rappeler que cet horizon n'est pas terrestre, mais qu'il est céleste. La résurrection des morts et le jugement éternel. Autrement dit, la mort n'est pas la fin, ce n'est pas le mur. Comme disait Henri Blocher, la mort c'est simplement la fin de ton péché. L'horizon est libre. Et le jugement éternel. Il y a deux rappels. Le premier, c'est de nous rappeler que nous allons passer au travers de ce jugement. Pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de qui il est. C'est le propitiatio, c'est la couverture de Christ. Et nous sommes justice de Dieu, alors qu'il n'y a rien en moi qui est justice de Dieu. Et pourtant, cela est imputé librement par la foi. Et Dieu me déclare juste. Et en même temps, il y a aussi un jugement qui nous attend, qui attend l'Église. Et on devra rendre compte aussi, nous, de la façon dont nous avons utilisé ce que Dieu a déposé en nous. Ce n'est pas ça qui nous motive à être de bons chrétiens, vous comprenez? Mais ça nous aide à nous rappeler que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, que nous avons été rachetés à un grand prix. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Et nous le rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier. Le frère André avait une façon assez étrange de former ses futurs missionnaires. Lorsqu'il proposait des séminaires de formation pour ces missionnaires qui allaient partir dans des pays qui étaient hostiles à l'Évangile, il leur posait une question simple en disant, voilà, admettons que tu te retrouves devant quelqu'un et qu'il braque sur toi une arme, tu fais quoi? Te tiens à bout portant. Et dit, je vais t'aider. Ça ne sert à rien de courir, à mon avis, tu seras plus lent que la balle. Moi, ce que je te propose, c'est de le regarder dans les yeux et de commencer à marcher vers lui. Et alors, évidemment, il y en avait toujours un qui levait la main, le Pierre du troupeau, et qui disait, et s'il tire? Et André de dire, et ben, s'il tire, je meurs. Et ben, c'est quand même problématique. Non, c'est juste un peu plus tôt. Et il disait, si tu arrives près de lui, pose ta main sur son épaule et prie pour lui. Prie pour toi aussi, mais prie pour lui. Ma maman n'avait pas peur de la mort. Elle me disait il y a 15 jours, d'ailleurs, je trouve ça un peu long de mourir. Alors je disais, peut-être que c'est pour ceux qui restent, pour apprendre à te laisser partir. Mais elle, elle avait juste envie de partir. Des fois, on trouve ça violent pour ceux qui restent, non ? C'est égoïste, c'est... La résurrection des morts et le jugement éternel. Est-ce que vous savez où vous allez ? Est-ce que cet horizon eschatologique informe qui vous êtes aujourd'hui ? En fait, je crois que l'une des problématiques de la modernité, c'est qu'on pense qu'on est défini par le temps présent. Alors que dans la conception hébraïque, en fait, le présent, c'est juste l'intersection du passé et du futur. Autrement dit, si tu sais d'où tu viens et si tu sais où tu vas, tu sais qui tu es. Et la communauté est là pour te le rappeler. Et combien j'apprécie les hymnes, où quand vous regardez en fait le contenu de ces strophes, il y a toujours une strophe qui parle de avant, d'où je viens, et puis une strophe qui parle de maintenant, où on est. Et il y a toujours une strophe qui termine là où on ira. Je crois que c'est important dans notre louange de nous rappeler d'où on vient, où on va, parce que cela détermine qui on est, profondément. Ça, c'est le fondement. Les trois paires de deux, c'est juste le fondement, c'est le minimum syndical. Et quand il est posé, ça me permet à ce moment-là de tendre vers la maturité. Alors tous les adeptes de l'évangile 21, vous allez me dire, mais oui, c'est ce qu'on dit à évangile 21. On a été sauvé, on est sauvé, on sera sauvé. On a été sauvé de la condamnation du péché, on est sauvé de la puissance du péché, et un jour on sera sauvé de la présence du péché. Justification, sanctification, glorification. Vous le savez. Heureux êtes-vous si vous avez posé ce fondement. Maintenant, il faut tendre vers la maturité. Frustration, exhortation, et enfin une résolution. J'aime bien les résolutions qui sont courtes. Elles sont souvent les plus efficaces. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, deux observations. Si Dieu le permet, est-ce que c'est un si conjoncturel, dans le sens que si Dieu est d'accord, on va tendre vers la maturité ? Ou est-ce que c'est circonstanciel ? Dans le sens, si on a encore le temps, si Jésus ne revient pas, il y a une forme d'urgence. Et un deuxième point qui m'interpelle personnellement, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Ouh, combien de fois, en tant que leader d'église, j'ai envie de dire, et c'est ce que vous ferez. Lorsque j'étais étudiant au séminaire, mon professeur de théologie pastorale me disait « Le jour où tu fais une séparation entre toi et les autres dans le ministère, il faut que tu t'arrêtes. » Et on sent, et là je m'adresse aux anciens, aux pasteurs, aux diacres, à un moment donné, on développe une fatigue. Et le problème, c'est les autres. C'est souvent ce qui anime d'ailleurs nos conversations dans la voiture lorsqu'on rentre le dimanche matin. La difficulté, c'est que les enfants écoutent. C'est pas parce qu'ils sont assis derrière qu'ils n'entendent pas. Pourquoi pensez-vous que 50% des jeunes quittent l'église lorsqu'ils arrivent à l'université ? C'est parce qu'en fait, ils ont compris, au-delà du sermon, qui était d'ailleurs, somme toute, très bien, que l'Église, c'est que des problèmes. combien d'enfants de pasteurs ? Attendez juste de pouvoir être indépendant et autonome pour enfin fuir l'Église qui occupait 90% des conversations autour de la table et c'était toujours des problèmes. On ne peut pas. Si on le fait, on est mort. Et quand bien même vous seriez frustré à un point d'abandonner, je prie ce matin que le Seigneur vous aide à dire « c'est ce que nous ferons ». De vous permettre de vous réassocier à cette douleur, à cette frustration, à cette difficulté, retrouver le chemin de l'exhortation en disant « ça va aller, on va tendre vers la maturité, on ne va pas reposer le fondement, on va juste à nouveau s'entraîner et s'exhorter à écouter et à mettre en pratique la parole de justice afin de pouvoir exercer notre jugement moral. » C'est juste ça, mais c'est beaucoup. Mais c'est une volonté politique, c'est ce que nous ferons. C'est ce que nous ferons. Frustration, exhortation, résolution. Le refus, finalement, de vivre une vie qui ne correspondrait pas à ce que l'on croit. De laisser l'orthodoxie primer sur l'orthopraxie. De se rappeler, finalement, l'injonction de Jacques, qui nous dira « montre-moi tes œuvres et je te dirai ta foi ». Et de se dire « Seigneur, montre-moi le chemin de la sagesse et que ce que je sais, je puisse déjà le mettre en pratique. » Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.